Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous au micro de Radio Campus 106,6 FM, www.campusil.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Voici que démarre comme chaque mercredi à 16h le magazine Campusil Info, un magazine donc qui vous parle de sciences, de technologie, d'études, de littérature, de poésie, enfin plein de choses, de tout ce qui se passe sur l'université de Lille. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai, c'est bientôt. Comme chaque année, j'allais dire, c'est un rendez-vous régulier maintenant, qui s'appelle Pint of Science. Alors, pour parler de cet événement, donc j'ai des personnes précieuses qui m'entourent. Et donc, on va tout d'abord donner la parole à Nadège Joly, qui est la coordinatrice de cet événement en région lilloise, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Oui.
Alors, peut-être quelques mots par rapport à l'année dernière, c'est à peu près à la même époque, c'est le printemps, c'est ça ?
C'est toujours aux environs de fin mai.
Oui.
Ça se déroule toujours dans des bars lillois. L'an dernier, on avait 9 soirées également pour parler science dans des bars. Tout s'est très bien passé. On est vraiment très contents chaque année de retrouver le grand public au rendez-vous. Une bière ou pas, avec un jus d'orange, pourquoi pas, à la main, pour parler science avec nos chercheurs de la région.
Voilà, donc on verra les lieux et les dates dans quelques instants. Et Nicolas Vizet, qui est donc membre de cette équipe lilloise Pint of Science, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lille, dans un laboratoire qu'il va peut-être nous présenter. Bonjour Nicolas Vizet.
Oui, bonjour, merci. Oui, donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire de physico-chimie des processus de combustion et de l'atmosphère à l'Université de Lille. Cette année, je suis un des membres du comité d'organisation de de sciences. Et l'année dernière, j'étais intervenant. Et donc, du coup, j'ai un peu l'expérience de l'autre côté de celui qui intervient dans ce festival.
Voilà, donc un rendez-vous, on va dire, de la science, des sciences, à vous de voir, avec le grand public, c'est ça l'idée ?
C'est exactement ça, de la science, de les sciences. On ne fait pas tellement de distinctions. D'ailleurs, on est très ouvert aux sciences humaines et sociales. C'est une question qui revient souvent. Pour nous, ça fait partie des sciences. On parle absolument de tout, aussi bien des molécules que de l'atmosphère, que pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes, pourquoi. Enfin, on a vraiment des sujets très, très vastes. C'est pas ça qui nous arrête.
Bon, et donc ces sujets sont à la fois sérieux, mais en même temps l'occasion d'échanges et de réflexions avec un public qui vient peut-être flâner des idées, chercher des idées, on va dire, pour pourquoi pas alimenter ses propres conversations avec des amis dans d'autres bars.
Exactement. L'idée quand même de Pint of Science, c'est qu'on a conscience que ça se passe en fin de journée. C'est toujours à 19h, 20h dans des bars en début de semaine. C'est pas simple les débuts de semaine. Donc on essaye toujours d'apporter une petite touche d'agréable, d'échange, de convivialité dans nos événements. Et c'est ce qui se différencie des conférences scientifiques qu'on a l'habitude de voir dans d'autres milieux en général. C'est qu'on apporte la petite touche échange. On vient dans un bar pour écouter un chercheur parler d'un sujet, mais en fait, on peut aussi lui poser nos questions, voilà, s'interroger. Il y a un petit jeu qui se crée entre le chercheur et le grand public.
Voilà, il y a des sciences, il y a de la science et il y a de l'humain. Donc voilà, on glane ce qu'on peut dans l'espace dans lequel on se retrouve à ce moment-là. Il y a des choix possibles, il y a des horaires. Est-ce que tout est complet ou il y a encore des possibilités ?
Alors, on a deux soirées qui sont complètes. La première, peut-être que Nicolas, tu pourrais en parler un peu, c'est une soirée dédiée au climat.
Oui, tout à fait. Donc là, on a voulu faire une soirée sur le changement climatique, qui est un sujet qui tient à cœur à pas mal des organisateurs. Mais on voulait quelque chose qui soit pas aussi pessimiste. On voulait pas que les gens aient envie de se tirer une balle en sortant de cette soirée.
C'est mieux.
Oui, c'est mieux. Et donc on a choisi une approche qui était celle du comment se préparer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux plus tard, et voilà, essayer de garder un côté optimiste. Voilà. Et donc là, on aura une personne de l'Université de Lille qui va nous parler de l'adaptation des espèces végétales animales au changement climatique, et puis des personnes du CERD qui vont venir nous parler de comment la région Hauts-de-France se prépare déjà au changement climatique.
Des mutations sont en préparation, c'est ça, du moins annoncées, c'est ça?
En tout cas, On sait que le changement climatique va changer beaucoup de choses et on parle souvent de l'atténuation. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais moi je pense qu'il est temps de sonner aussi l'adaptation, c'est-à-dire de dès maintenant réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2050 on survive ou les espèces survivent à ces températures, à ces changements.
Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on constate en région une baisse de la pluviométrie, on va dire, et donc avec moins de nappes phréatiques, enfin moins d'eau dans les nappes phréatiques, et donc des problèmes. Et je vois par exemple les pommes de terre qui se rétrécissent à vue d'œil d'une année à l'autre dans les récoltes. Donc une vraie inquiétude des autorités aussi, puisqu'on a des alertes aussi, des plans en préparation pour économiser l'eau, etc. Mais le problème vient pas seulement de l'économiser l'eau, c'est qu'elle ne tombe plus. Donc ça va durer ça, visiblement, on l'apprendra dans ces journées.
Alors oui, on va en discuter clairement. On a invité des spécialistes du changement climatique, donc on va. Et je crois que c'est important, c'est de pouvoir leur poser justement des questions. Et je crois que c'est la grosse différence par rapport à une conférence scientifique, c'est qu'à tous les intervenants, on leur donne des consignes qui sont attention, ne venez pas avec un gros PowerPoint, ne venez pas parler pendant une heure. Il faut absolument favoriser la convivialité et l'échange. Donc on leur demande de faire des introductions courtes, des chapeaux pour présenter le sujet, ensuite d'avoir des façons de relancer le discours, mais de donner la parole très vite au public pour pouvoir vraiment engager une discussion. Et je crois que c'est vraiment un fondement important. C'est pas une conférence pendant deux heures. L'idée principale ici, c'est d'amener de la convivialité, des échanges, de l'humain entre tout ça autour du sujet scientifique.
Alors pour les personnes concernées, je parlais de sécheresse. Il y a les agriculteurs. Est-ce que par exemple les agriculteurs sont conviés ou l'école d'agronomie par exemple de la région? Est-ce que tous ces gens-là se mobilisent ou se fédèrent pour peut-être amener leur science d'une certaine manière, leur connaissance du terrain et surtout de parler des effets qu'ils constatent. Je ne sais pas s'ils ont chez eux des pluviomètres ou des choses comme ça, mais ils doivent sûrement remarquer des choses depuis des années qui sont sur leur territoire, leur terrain.
Alors bien sûr, tout le monde est convié à Paint of Science, agriculteur ou pas, c'est vraiment ouvert à tous justement. Après, pour être honnête, c'est un peu complexe de toucher toute la population. On vise à être grand public, mais on amène quand même des passionnés de science. Je ne dis pas que les agriculteurs ne sont pas passionnés de science, je dis juste qu'il y a une communauté passionnée de science qui vient naturellement à nos événements. Après, si vous avez des amis agriculteurs qui ont envie de découvrir les sujets,
alors c'est sûr,
allez-y, venez, pas de souci. Au contraire, on sera très très heureux de discuter de ces sujets avec vous en direct, parce que c'est aussi ça l'important, comme tu disais Nicolas, c'est vraiment l'échange.
Voilà, on peut peut-être parler aussi de fumée, d'environnement enfumé. Je vois qu'il y a thème clope contre vapoteuse.
Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est une question que vous vous posiez, mais moi, il y a une question que je me pose clairement, c'est est-ce que les e-cigarettes ou vapoteuses ont un effet sur notre santé, sur l'environnement, sur la sociologie?
C'est une vraie question, parce que ça
voilà.
Très vite.
C'est arrivé un peu sur le marché et aussi autour de nous. Voilà. Moi, j'ai des amis qui fumaient des cigarettes normales qui sont passées à la e-cigarette. Mmh. Et ils me disaient, mais c'est pas dangereux, je peux fumer à l'intérieur. Ça remet un peu en cause les pratiques sociales qu'on a. Maintenant, les gens refument à l'intérieur sous prétexte que c'est une cigarette électronique. Mais est-ce que c'est juste ou pas?
Ils sont accros autant qu'auparavant?
A priori, selon ce que y a un peu échangé les experts qui seront là pour la soirée, c'est que certaines cigarettes électroniques présentent de la nicotine et d'autres non. Donc, y en a où il n'y en a pas, donc il n'y a pas tellement d'addiction, même pas, et l'autre, oui. C'est après, différent. Un autre problème qu'on peut soulever, c'est que certaines personnes qui ne fumaient pas se mettent à la cigarette électronique alors qu'elles ne fumaient pas. Donc elles commencent
le parcours.
Exactement.
Par ce sens-là.
C'est ça.
Ouais. Bon, ben, en tout cas, moi, je ne peux que conseiller aux gens d'arrêter le plus vite possible, parce que c'est une expérience que j'ai eue et qui était malheureuse. On s'en sort, mais il faut de la volonté. Alors, sinon, plein de choses intéressantes, notamment, peut-on tomber amoureux d'un t-shirt? Alors là, je dois dire que ça provoque.
Alors là, c'est une bonne blague. C'est une bénévole qui a dans son équipe de recherche quelqu'un qui est spécialisé sur les phéromones. Et en fait, elle nous a raconté plein de choses sur le comportement qui peut être induit par les phéromones. Alors les phéromones, pour vous en parler un peu, c'est un peu ce que dégagent les fourmis pour se déplacer, enfin pour dire à leurs congénères qu'elles vont dans telle direction, qu'il y a un danger, une alerte, etc. Mais c'est aussi ce que dégagent plein d'autres espèces. Et la question qu'on se pose lors de cette soirée, c'est est-ce que nous, humains, on est attirés ou est-ce qu'il se passe quelque chose avec les phéromones? Est-ce qu'on a un capteur à phéromones qui fait que notre comportement est différent si on en ressent une? Donc, l'histoire du t-shirt, c'est en fait, donc l'un d'entre nous a porté pendant 30 jours un t-shirt et on va faire renifler le t-shirt aux personnes. Ils nous diront, est-ce que vous êtes ou pas attiré par le t-shirt?
Alors, l'année dernière, il y avait un des artistes étudiants en école d'art, qui avait c'était une artiste d'ailleurs en l'occurrence, hein, qui avait présenté des oreillers sur lesquels elle avait projeté des matières humaines riches en phéromones ou chargées de... Voilà, et donc elle demandait aux personnes de ressentir les choses, essayer de deviner ce que c'était et de voir si ça pouvait se traduire lentement par des réactions, des impressions, pourquoi pas des sensations. Voilà, donc l'idée c'était c'est aussi de dire que le corps humain est bourré de codes par rapport au sexe, etc. Voilà, et que dans un univers particulier, on pourrait s'orienter vers telle personne ou telle autre en fonction de ce qu'on ressent, et pas forcément de ce qu'on sent, mais de choses qui sont... Alors, on parlait tout à l'heure de vapoter, mais en l'occurrence, on peut vapoter des phéromones, pourquoi pas.
C'est amusant cet exemple un peu art et science, parce qu'on a toujours voulu faire un sujet art et science à Paint a Science, on réussit jamais.
Ah, celui-là il est bien.
C'est, on va vous le voler pour l'an prochain.
Je dois avoir les photos quelque part là et peut-être une interview que j'ai faite.
Et ben voilà.
On peut la rediffuser tout à l'heure.
Très bien.
Donc voilà, c'était l'année dernière dans le cadre de Art-Up. Et donc il y avait 5 artistes ou 6 artistes comme chaque année qui étaient repérés issus d'écoles d'art. Et voilà, c'était assez surprenant parce que surtout qu'il y avait un peu le mystère sur l'origine des produits qui étaient donc mis sur ces oreillers, qui étaient posés sur des murs, hein, donc ils étaient à hauteur de tête, hein, on pouvait s'approcher, etc. Donc voilà, c'est une expérience particulière, des gens appréciés, d'autres pas. Franchement. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est d'amener une réflexion. Quoi. Donc après, l'œuvre d'art dans tout ça, art et science, c'est quand même un beau projet en ce moment que l'université développe, énorme. Avec le Frénois notamment. Hein. C'est des moments assez intéressants où l'école d'art du Frénois s'oriente vers justement sa relation avec le monde scientifique et les technologies aussi, hein, les nouvelles technologies qui permettent aux... d'une certaine manière, à des domaines nouveaux de l'art de se développer avec d'autres outils ou d'autres réflexions. Je pense qu'on est dans un moment où l'art évolue aussi, en partie, hein, avec le temps technologique, et qui amène donc pas forcément des solutions, mais des domaines nouveaux à découvrir pour les spectateurs. Donc voilà, c'est un élargissement du champ culturel, d'une certaine manière.
C'est vrai. D'ailleurs, la science, c'est culturel.
Oui, ça fait partie de la culture.
Oui, mais je pense qu'on ne le dit pas assez, que les gens ne le pensent pas. Peut-être parce qu'on est sensibilisé dans notre milieu, mais...
En fait, si on considère que la culture, c'est la connaissance d'une manière globale, et aussi la façon dont la connaissance, on la traite et on l'analyse, et puis on la met en perspective, peut-être qu'à ce moment-là, la science est une des composantes de la culture, dans la mesure aussi où, en plus d'être en elle-même culture, elle peut être croisée avec d'autres secteurs pour... arriver à développer encore le champ des connaissances et de l'ouverture d'esprit, surtout. C'est aussi ça, la culture,
oui, c'est
non
vrai. Oui, absolument.
Donc voilà, donc on est sur ces rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait encore annoncer d'ouvert?
On peut parler de bon goût, pourquoi pas, dans le sens, je ne sais pas quels sont vos goûts musicaux, René.
Oh, j'aime tout.
Ah bah, très bien, on va se demander
surtout
justement.
La musique chinoise.
Ah, je ne sais pas si on en parlera.
Goût, hein. Bah, je peux vous en mettre.
La question du coup qu'on va se poser, c'est quand la musique est bonne, plutôt dans le sens, est-ce qu'il existe des critères scientifiques ou pas, ou vraiment pour définir si une musique est bonne?
Ouais. Alors, là, franchement, hier, j'ai enregistré une émission avec un chanteur hein, que j'ai monté ce matin et que je vais diffuser à 17h. Donc, en l'occurrence, ce chanteur est un excellent chanteur qui compose très bien, etc. Après, comme c'est un artiste professionnel, parfois il est dans des circonstances, on va dire, où il est appelé à renforcer des équipes artistiques qui ont des projets très différents. Donc, les projets en eux-mêmes, est-ce qu'ils sont bons ou pas ? Ils ont un public, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment. Et par contre, pour certains, ce n'est pas forcément intéressant, soit culturellement. Il y a tout un débat autour de est-ce que la musique qui est bonne, c'est celle qui plaît aux gens, ou c'est celle que certaines catégories de personnes considèrent comme qualitative. Je sais pas, c'est pas simple, c'est très subjectif et c'est très culturel pour le coup. Ouais, alors est-ce que ça peut être scientifique ? Bonne question.
Je sais pas.
L'approche
du tout.
L'approche de ça, la on musique est bonne. Par exemple, on a entendu l'émission d'avant avec Arnaud, hein, qui a l'habitude de passer des musiques électroacoustiques, donc qui ne sont pas faites pour être belles, par exemple. Donc lui, il trouve que la musique est bonne. Est-ce qu'elle est belle ? C'est autre chose. C'est un petit peu. Comme beaucoup d'œuvres conceptuelles, elles ne sont pas forcément faites pour être belles. Donc à partir de là, elles sont belles dans la mesure où elles sont originales peut-être, ou esthétiques d'une certaine autre manière, mais dans la provocation ou dans la laideur, pourquoi pas. Donc c'est très compliqué.
C'est vrai que c'est très subjectif.
Cette année, il y avait encore un autre artiste dont je dois avoir une interview quelque part, toujours à Art Up, il présentait des corps dans des espaces végétaux, dans des forêts, etc. Et puis dans des univers glauques. Hein. Et je lui disais, c'est quand même assez esthétique. Et il me disait, ah non, c'est pas esthétique, c'est pas le propos. Il dit, c'est quand même des choses. Oui, mais je dis, globalement, il en ressort une certaine beauté. Alors, voilà, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Et donc, on a eu un échange assez intéressant sur le fait de trouver des. Alors, je dis, la peinture ou la photo ou la musique bonne, belle, intéressante. Voilà, il y a toute la gamme. Je pense que c'est bien d'avoir une diversité, de toute façon. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester dans un univers trop borné, quoi. Parce que. Pour le coup, l'intelligence en prend un coup.
Absolument, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on peut encore découvrir ?
Nicolas, quelle est ta soirée préférée ? Nicolas.
Alors là, en vous écoutant parler, j'ai envie de vous dire, il faut absolument aller à cette soirée parce que votre conversation là est passionnante. On sent tout de suite tout ce qu'il y a derrière ce thème quand la musique est bonne, qui peut être à ce point polémique et intéressant, justement d'avoir quelqu'un, parce que nos invités sont des scientifiques. À chaque fois, ils ont donc une approche qui va être très très carrée, scientifique. Donc ils vont venir amener des éléments. Ça, je pense, ça va donner des conversations ici dans cette soirée qui vont être très animées, très intéressantes. Donc si vous pouvez vous libérer le 22 mai pour aller voir, ce serait bien. Après. Mes préférés, comme je travaille sur la qualité de l'air, j'aime beaucoup le débat clope et vapoteuse parce que c'est important de connaître ce que l'on respire. Moi là, j'aurais presque envie d'aller toutes les voir. Alors c'est un peu compliqué. On pourrait peut-être dire les titres de celles que l'on n'a pas encore abordées.
Vas-y, libre à toi.
Non, je te laisse faire.
Bon, très bien. Un récap. Alors du coup, c'est Pint of Science, un festival international de science qui a lieu du 20 au 22 mai dans des bars de la métropole lilloise. Alors, on sera ici à Villeneuve-d'Ascq, au Mondrian, qui se situe à l'hôtel de ville à côté de Villeneuve-d'Ascq V2. Donc là-bas, il y aura le 20 un débat sur la cigarette et la e-cigarette. Le 21, on aura le fameux « Peut-on tomber amoureux d'un t-shirt ?» Voilà. Ensuite, on se téléporte sur LM Lille, au bar Le Polder, que vous connaissez, j'en suis sûre.
Oh, ça me dit quelque chose. Hein.
Ah, voilà. Eh bien, très bien. Parce que c'est là-bas qu'il y aura lieu la soirée dédiée à la musique René. Donc, retenez bien le 22 au Polder. Mais sinon, les jours d'avant, le 21, on aura les maths, une invention de l'esprit humain. Mais c'est booké, donc.
Ah.
Vous viendrez l'an prochain si vous voulez assister à
l'essai
sur les maths. Et le 20, on va parler de langues, les langues sauvées, les tous, dans le sens où il y a des patois, des langues locales qui se perdent ou qui reviennent. Et on va se demander un peu à quoi ça sert ces langues locales. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou pas? Enfin voilà, on va s'ébrouiller.
Moi, je peux dire tout de suite, oui, hein, je suis né dans un bain de patois, picard.
Ah bah,
donc
très
je
bien.
Suis très fier, pas d'être sorti, hein, de l'avoir intégré à ma naissance.
Eh bah, ben, il faut quelques mois en picard, là,
ah,
maintenant.
Ouais, ça va, c'est bien. Hein. Faut écouter du patois, faut le parler, quoi.
Hein? C'est voilà, quand même excellent.
Non, c'est vraiment des moments, peut-être qui appellent aussi, puisqu'après on apprend, enfin je dis après ou en même temps, hein, la belle langue française, hein, qui est une langue magnifique, qui s'est construite au fil des années, etc., qui a été aussi une option possible, quoi. Il y avait plein de possibilités à un moment donné, on a choisi cette langue sous cette forme-là pour représenter la France. On aurait très bien pu prendre le picard, hein, pour le développer au niveau national. Hein.
Bon,
ce sont des choix politiques d'un moment, peut-être avec un excès de parisianisme. On peut en discuter, voilà. Donc,
c'est
voilà.
Un peu tendu.
Donc je pense que préserver les cultures linguistiques, quelle que soit leur nature, ça contribue justement à la culture globale. Et autrement, on est plus pauvre quand on perd ça, forcément.
Et justement, c'était un peu un débat qu'on a eu en préparant Pint of Science, de lier cette thématique de culture, de langue, avec la musique. Parce que, on va dire, bah, le rap, c'est pas la musique, ils utilisent un langage un peu différent. Nicolas, tu parlais de chansons avec un langage bien français, d'un autre temps. Et il y a plein de ponts qui sont possibles, en fait.
Le tout, c'est d'avoir suffisamment de mots pour exprimer des idées.
Exactement.
Donc, si on entre dans ces champs-là, par exemple, on parle du patois, hein, qui était un langage populaire dans les familles, qui permettait d'aller à l'essentiel et beaucoup aussi à l'affectif. Donc il y avait les choses usuelles de la vie usuelle, et puis il y avait aussi beaucoup beaucoup d'humour, d'amour. D'humour aussi, d'ailleurs.
Un petit jeu de mots.
Ouais, d'humour aussi. J'ai connu de l'humour en patois, c'est génial, quoi. Ah ouais, et au bistrot aussi, hein, je veux dire, ça donne. Hein, faut faire
clair.
Du patois humoristique en bistrot.
Je suis allée au Petrouchka rue Royale, ils font une pièce de théâtre.
Ça fait longtemps qu'ils font.
Exactement.
Ça fait
et
plus de 40
c'est génial.
Ans qu'ils font des choses.
C'est humour et patois. Mmh. Et il faut inviter des copains qui comprennent rien, c'est encore plus drôle.
Ouais.
Enfin voilà.
Ouais,
et juste pour terminer sur Pint of Science, il nous reste 3 soirées dont on n'a pas parlé. Ça sera au fur et à mesure. Alors là, c'est en plein dans l'île, à côté de Rue Solferino, vous ne pouvez pas louper. Le 20, on aura un parasite dans votre cerveau, donc ça fait trop peur, j'ai pas envie d'en parler, mais allez-y. Ouh. Le 21, on va parler drogue plus précisément. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos quartiers, ou peut-être pas, il y a des petites canettes de métal qui traînent sur le sol. C'est des petites bouteilles qui servent à la base pour faire de la chantilly.
Ah bon ?
C'est du gaz, ouais. Et en fait, dedans, il y a du gaz, du protoxyde d'azote. Mm-hmm. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes et les un peu moins jeunes s'en servent pour inhaler le protoxyde d'azote.
Ah ouais.
Voilà, ils mettent ça dans des ballons de baudruche et après ils le respirent tranquillement. Alors ils font ce qu'ils veulent. Par contre, pour leur cerveau,
d'expérience avec le détachant.
Ah bah voilà, c'est exactement ça, la colle Cléopâtre, l'éther, enfin les marqueurs.
Ça, hein, et j'ai testé ça, c'est affreux.
C'est ça. Donc on a tous nos petites préférences à sniffer, mais c'est pas tellement intelligent pour certaines. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et l'idée, c'est de parler un peu de ces pratiques, en fait. On n'est pas là pour juger sur Pint of Science. Hein, quand on parle de cigarettes et de vapoteuses, on juge pas. On est là pour amener des faits et juste donner tout ça au grand public, en fait.
De cette histoire des terres là, c'est quelque chose que j'ai.
Tout savoir.
Non, c'était dans la batterie de cuisine, je veux dire dans les produits ménagers.
Exactement.
Et donc moi je sentais ça, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, c'était pas forcément des terres, c'est vraiment les détachants là. Je sais pas, c'est sûrement en base de terre, enfin je sais pas quoi. Mais en tout cas c'est inspirant, quoi, je veux dire.
Ouais.
Et moi j'étais dans mon coin, j'avais 7 ans, quoi. Hein, par exemple, à 7 ans, on ne sait pas que c'est une drogue déjà. À l'époque, on ne savait même pas que fumer, c'était une drogue d'ailleurs. On ne savait rien à l'époque, on était bêtes. D'où la culture. C'est important d'élever le niveau. Quoi. Et puis d'en parler surtout, d'en parler. Mm-hmm. Si mes parents m'avaient dit, c'est quoi cette saloperie? C'est une vraie drogue, c'est hyper dangereux. Voilà quoi. Mais là, pourquoi pas, enfin,
c'est amusant, on respire 2 minutes, c'est hilarant.
Là, c'est pas hilarant, c'est pénétrant, c'est euphorisant peut-être un peu. C'est pas hilarant vraiment. Il y a des gaz hilarants, hein, qui sont là, peut-être drôle, je ne sais pas, je n'ai pas testé cela. On ne peut pas tout tester. Non, arrive à un moment, il faut trouver sa limite ou ses limites.
Ouais. Après, le problème vraiment là, du protoxyde d'azote dont je vous parle, c'est que c'est un usage détourné. C'est vraiment utilisé pour la cuisine, pour faire de la chantilly. Ça veut dire qu'ils peuvent en acheter. Enfin, j'ai vu toute une étude qui parlait de collégiens qui envolaient dans les placards de leur mère ou qui allaient à l'épicerie à côté parce que ça ne coûte vraiment rien du tout.
Ça, c'est... On ne peut pas tout interdire non plus.
Non, la question n'est pas d'interdire, mais d'informer. Oui, de pourquoi pas sensibiliser. Après, il y a toute une logique d'environnement. Enfin, voilà, quand moi j'en vois plein dans la rue à terre, on parle de climat, etc. Mais le métal, des canettes, droguez-vous, mais sauvez la planète, mettez-le à la poubelle, j'en sais rien.
Bon, je pense qu'au lieu.
Enfin, droguez-vous pas, mais.
Ouais, je pense qu'il y a aussi dans ces lieux, puisque c'est dans les quartiers où on retrouve ça, et c'est dans des coins de rue où je sais pas, ils pourraient mettre des éducateurs qui disent aux gens, faites gaffe, ces trucs, c'est de la merde, quoi, non ? Parce que là, je pense qu'on met pas forcément les éducateurs au bon endroit. Et on met peut-être trop de flics au lieu de mettre des éducateurs dans certains endroits. Oui, il arrive un moment, il faudrait quand même faire que la société soit vivable. Autrement, il y a des gens qui se réfugient dans des choses dangereuses.
Exactement. Et c'est justement une tristesse. Moi, j'aimerais bien que tout Lille vienne à Pint of Science. Enfin, on n'aurait pas assez de place. Mais que tous les quartiers viennent. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir des bars un peu partout. Mais ce n'est pas si simple, en fait.
Oui,
faut... À part être homme que... sandwich dans la rue pour les convaincre.
Mais est-ce que le problème, il est quoi ? Il est pour les bars de l'idée d'éventuellement perdre des clients ou...
Non,
parce que...
Non, au contraire. Je pense que les bars qui participent à Paint of Sense sont plutôt ravis parce qu'on est sur un créneau en début de semaine, lundi, mardi, mercredi. D'accord. Donc en soirée, c'est assez calme. Donc on ramène un peu de clientèle pour eux. Et puis c'est toujours... C'est toujours sympa d'avoir un événement qui parle un peu de science.
Pour les bars qui nous écoutent, on peut leur dire que pour l'année prochaine, il faut déjà postuler.
Exactement.
C'est ça l'idée.
C'est ça l'idée. On va envahir les bars. Ben oui.
Voilà. Donc pour cette année, eh bien, c'est du 20 au 22 mai. Pour l'année prochaine, on ne sait pas encore, a priori.
Non, on ne sait pas. Ça sera diffusé. Il y a un site web où toutes les informations sont résumées, où les événements, etc. C'est pintofscience.fr. Alors, pintofscience.fr.
Ouais. Moi, j'ai dit PIN tout à l'heure pour bien montrer comment ça s'écrit. Hein, comme ça, c'est bien.
Mais c'est ça.
Voilà. Donc, il y a un site, hein, Pint, P-I-N-T. Voilà. Bah, oui, enfin, on peut même dire Pint of Science. Voilà, pour ça, c'est peut-être plus simple à lire. .fr. Et là, il y a plusieurs événements parce que Lille, ce n'est pas la seule ville concernée.
Exactement. Il y a 53 villes. Ça commence à faire beaucoup. Il y a 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, on était 3 villes. Lille n'y était pas. Ouais. L'année d'après, Lille y était. Et on est passé à 53.
C'est énorme,
je dis, je ne sais plus.
Enfin, bon, même encore 53, oui. C'est déjà important.
Oui, c'est ça.
Quoi.
Exactement.
Donc, l'initiative part plutôt du monde scientifique ou universitaire.
Oui, plutôt du monde scientifique. À la base, c'était des chercheurs plutôt en médecine qui ont souhaité partager les sciences en dehors de leur labo, en fait. Et qu'ils se sont dit, on va faire ça, mais alors il faut convaincre le grand public, dans un lieu convivial, qu'on fait ça, ou... Alors le bar a été naturel, parce que c'est quand même un milieu qui casse les codes, finalement. On retire toutes les notions de conférences scientifiques. Qui irait dans un bar faire une conf ?
Quand on voit certains cafés à Lille qui font régulièrement des rendez-vous café langue...
Ah oui.
On peut imaginer, pourquoi pas, des cafés sciences. Il y avait bien des cafés philo. À un moment, ça a été un peu perdu, peut-être, les cafés philo.
Alors, il y a Cité Philo, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive en fin de novembre tous les ans.
Oui, mais les cafés philo, ça veut dire toutes les semaines, un rendez-vous philo. Il y en a eu à un moment, il y en avait deux à Lille, puis ça s'est perdu. Mais pourquoi pas un café science ou un espace science.
Après, je sais qu'il y a plusieurs initiatives qui commencent à naître, sur la culture scientifique. Hein. Il faut juste que tout le monde se réunisse et que notre force soit plus vive pour diffuser la science.
Voilà, donc on peut imaginer un bar associatif à Lille qui se crée. Est-ce qu'il serait financé ? Est-ce qu'il aurait des aides pour...
Ça existe déjà à Toulouse. À Toulouse, ils ont un bar de science.
Alors, on est encore à Lille, là.
Ah là là, je connais plusieurs personnes, notamment dans l'équipe de Pint of Science Lille, qui ont cette envie folle de créer un bar de science lillois. Mais...
Est-ce que ça compterait pour le classement de Shanghai ? Ce serait une bonne question.
Si seulement, question subsidiaire.
Allez, un point de plus, ce serait cool quand même.
Hein. Allez, on vous
allez,
invite
on
tous
va,
au
on
bar.
On y va, les Lillois. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on rappelle, 22 mai, le site, c'est Pintpint, comme vous voulez, hein, mais je vous le dis pour que ça soit clair. Hein. Pintof, P-I-N-T-O-F, science. .fr, et là vous aurez la déclinaison, on va dire locale, des événements. Si vous souhaitez aller dans une autre ville, pourquoi pas, hein.
Oui, c'est ça.
C'est possible si vous partez.
Exactement.
Faire un petit tour, vous promener. Voilà. Je sais que les Lillois, les étudiants Lillois notamment, hein, bougent pas mal en ce moment. Il y en a même qui rentrent chez eux, ceux qui viennent faire des études là, qui repartent chez eux un peu partout en France. J'en connais. Je les salue s'ils m'écoutent de là où ils sont. Et voilà. Donc je les engage à aller dans leur Pint of Science local. Merci beaucoup. Donc,
merci beaucoup.
Je rappelle que nous étions avec Madame Nadège Joly, coordinatrice de cet événement, et de Monsieur Nicolas Vizet, donc membre de l'équipe lilloise Pint of Science et anciennement enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Merci et très bonne journée.